Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. C'est la rentrée, c'est le mois de septembre, on est reparti pour une saison de catch. Je suis Raphaël et je suis là avec notre nouvelle recrue, notre nouvel élève qui vient juste de faire sa rentrée. C'est Kyrias, ça va Kyrias ?
Ça va très bien, merci Raphaël de m'accueillir dans cet épisode de Raw qui se trouvait à Baltimore, si j'ai bien noté.
Exactement, c'est ce que j'ai noté aussi, le Raw du 2 septembre. Donc Kyrias qui n'est pas à son premier show, hein, je vous invite à écouter review qu'ils ont fait de NXT UK Takeover Cardiff. Ils ont bien parlé de tout ce show-là et de ces gros matchs qu'ils ont eus. Bon, là, on repasse sur Raw, mais Raw, a priori, tu connais bien aussi, tu es un suiveur attentif.
Tout à fait, je les suis régulièrement et toutes les semaines, donc je connais bien.
Eh ben, écoute, on va y aller ensemble sur ce show de Baltimore. Donc, on est à 2 semaines maintenant du gros pay-per-view Clash of Champions, où on nous annonce que toutes les ceintures seront défendues. Et on commence justement par une signature de contrat. Braun Strowman et Seth Rollins rejoignent Michael Cole sur le ring. Donc ce sont les deux champions tag team de Raw, mais ce sont aussi les deux qui vont s'affronter pour le titre universel. Alors moi, de mémoire d'homme, je n'ai pas du tout le souvenir d'un cas de figure identique. C'est assez unique et bon, c'est bien ce qui se dit au micro, mais bon, Seth Rollins il dit qu'il a l'habitude de défendre plusieurs ceintures à la fois et qu'il n'aura pas trop de problèmes à faire la part des choses et à rester Seth Two Belts. Bon, il n'utilise pas l'expression, mais c'est ça l'idée. Et Braun Strowman, il dit pas grand-chose. En fait, il est très vite interrompu, car les troubles faits arrivent. AJ Styles et The OC, le club, qui sont assez vénères. AJ Styles, il se fout un peu de la gueule de ce match en disant Braun, comment il a eu son title shot. En gros, il a regardé la ceinture et on lui a donné un title shot. Alors vite, il fait mine de cacher sa ceinture US. Il dit oh, personne regarde ma ceinture. Il rappelle que lui, il a pas de challenger pour le titre US. Il dit qu'il aimerait en gros être lui-même le challenger du titre universel. Bref, il est pas content, à tel point qu'il monte sur le ring et il déchire le contrat que viennent de signer Braun Strowman et Seth Rollins. Ça ne plaît pas à tout le monde, donc ça part en baston. Et comme d'habitude, puisqu'on a plus de general manager, donc on profite de la pub, il y a l'ellipse pub, et au retour, un tag team match, Braun Strowman et Seth Rollins contre Gallows et Anderson. Alors figure-toi que j'ai un peu oublié comment ça se finit, moi il me semblait que c'était AJ Styles qui cause une disqualification, mais c'est ça
tout
ou
tout à fait,
c'est
oui. Non, c'est ça, oui.
C'est ça, je ne sais plus s'il y avait eu un vrai tombé officiel, non, ok, c'est AJ Styles qui intervient finalement dans le match. Ça part en baston. Bobby Roode et Dolph Ziggler sortent du néant. Robert Roode, pardon. Je fais. AJ Styles s'était pourtant moqué justement de Bobby oui, Robert oui. Roode au micro, mais non, ils viennent les aider quand même. Donc ils sont 5 contre 2, et forcément, ça prend le dessus. Et le pauvre Braun Strowman se retrouve même pris dans un Magic Killer porté à 5. Bon, les aussi dominent ce segment, hein, ils ressortent costauds, sauf que bah ils ont pas de title shot pour aucun des titres, donc au final ils sont quand même un petit peu hors de tout ça, hein, c'est Roode et Ziggler qui auront le match pour le titre tag team, et a priori c'est Braun et Rollins qui vont vraiment s'affronter pour le titre universel. Donc bon, voilà un gros segment d'ouverture. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, le club là, ils sont à leur place, tu trouves, ou
ça va nous mener tout ça? Alors ben, comme t'as dit, le résultat importait peu en fait du match, et puis il n'y avait pas vraiment d'enjeu pour aussi pour Gallows et Anderson. Ils auraient pu ajouter une petite stipulation histoire de donner un peu d'enjeu à la chose. Après non, la promo de Styles effectivement a été vraiment, j'ai bien apprécié, en plus. Il était dans le vrai, quoi, comme un heel peut l'être de temps en temps. Et non, ça m'a bien plu. Le côté vraiment bien agressif de Z aussi. Moi, je suis preneur. Après, ce que je trouve dommage, c'est pour Robert Roode et Dolph Ziggler, c'est qu'il n'est pas non plus de nom pour eux, et qu'ils ont été un petit peu touchés. On ne sait pas trop pourquoi, en fait. Et on ne sait pas trop pourquoi non plus ils ont aidé le club. Moi, je m'attendais peut-être à ce qu'ils les rejoignent à la fin, lors de la célébration, mais non, même pas. Et le club a fait son tout suite de ce côté, et Ziggler et Roode ont célébré de l'autre.
Ouais. Bah, la soirée était pas finie pour eux, on va les revoir bientôt, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le. J'ai beaucoup aimé la promo d'AJ Styles et j'aime bien ce club revigoré. Mais c'est vrai que là, je trouve qu'on. Bah, du coup, ils ont l'air à peu près bookés, là, nos matchs de pay-per-view. Donc, à part jouer les troubles faites, voilà, je pense pas que Gallows et Anderson soient ajoutés au tag team match, même c'est encore possible, remarque. Par contre, AJ Styles, bon, clairement, je pense qu'il aura un autre challenger, donc je pense que c'est plutôt des plans sur le long terme. Là, ça va être une faction heel qui va durer longtemps, mais là, bon, ils veulent juste foutre la merde. Ils veulent pas mal foutre la merde, quoi, en gros.
Moi, ce que j'aimerais bien, c'est justement qu'on commence à avoir quelques factions de trois personnes. On a The New Day, on a que Randy Orton avec The Revival. Ils sont en train de bâtir des sections de trois compétiteurs qui commencent à avoir de la gueule, quoi, je trouve ça. Et je sais pas où ils vont aller avec.
Pour les Survivor Series, peut-être.
Ah, pourquoi pas?
Possible. On verra bien tout ça. Alors c'est pas fini, le club décidément ils sont très vindicatifs. Juste après en coulisses ils attaquent le pauvre Cédric Alexander qui avait rien demandé. Je sais pas ce que tu en as pensé de ça.
Oui, on se demande pourquoi, effectivement, pourquoi lui, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi Alexander, puisque c'est pas vraiment une super menace pour eux, ni pour le titre US. Hein. Donc non, mais bon, c'est des heels, donc ils sont méchants.
Ouais, c'est peut-être ça. Moi, j'ai envisagé ça qu'ils ont, en gros, ils nous ont désigné là celui qui aura un match contre AJ Styles pour le titre US à Clash of Champions, parce qu'il en faudra bien un, et a priori, comme ça sera pas Braun Strowman ni Seth Rollins. C'est peut-être, voilà, peut-être on va nous booker ça après rapidement.
Oui.
Je ne sais pas. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Ah oui. Eh bien donc je disais, Ziggler et Robert Roode, ils avaient un vrai match ce soir. Hein, cette tag team nouvellement créée, qui n'a pas encore de nom, comme tu le remarquais, ils affrontaient les anciens champions tag team, la belle histoire de WrestleMania, Kurt Hawkins et Zack Ryder. Un match qui n'a pas été un squash, hein, qui a été plutôt dynamique, qui a été vraiment sympa, j'ai trouvé. Les Ryder et Hawkins, ils n'ont pas non plus été ridicules, ils ont réussi à placer quelques-uns de leurs moves, ils ont réussi à dominer. Mais c'est Zack Ryder qui rate son Rough Rider, qui est saisi de mémoire par un super kick, et puis il y a le Glorious DDT qui est porté sur Kurt Hawkins, je crois. Bref, en tout cas, victoire des Challengers au titre tag team. Donc l'équipe se crée et la dynamique, je ne sais pas ce que tu en penses, plutôt bonne pour le moment.
Bah, tout à fait, oui, ils ont une bonne petite alchimie, les quatre là, enfin, les deux paires, disons. Et j'ai trouvé le match assez enjoué et relevé, du coup, en rapidité. Ça, une impression que j'ai eue sur tout le show, c'est que les gars ont vraiment déroulé assez rapidement, il n'y a pas eu trop de temps mort dans les matchs. Et
Ouais.
Ouais, non, le finish était très bien, Glorious DDT très bien vendu, et toujours, quoi. Par Ziggler, hein. Pas sur Hawkins, pardon. Et
Ouais.
non, c'était vraiment bien. Moi, j'ai bien aimé.
Je pense que les deux anciens champions, ils sont très contents quand ils ont des matchs à Raw, donc ils le montrent, ils donnent tout ce qu'ils ont, ouais.
Oui, puis on est loin de la losing streak pour Hawkins maintenant, donc.
Oui, bon, il gagne pas souvent non plus, mais en tout cas, il est un peu booké, ils sont un peu bookés plus intéressants, en tout cas, oui, c'est sûr.
Oui.
Donc bon, après de là à dire que ça renforce Ziggler et Roode comme menace pour le titre de Braun et Seth Rollins, il y a peut-être encore un petit peu de boulot, non?
Ouais, c'est léger, oui.
Alors, nous passons chez les filles maintenant. Un petit
Ah.
deux segments féminins. D'abord un petit match. Alors, au dernier SmackDown, on a eu le retour en fanfare de Lacey Evans. Lacey Evans qu'on n'avait pas vu depuis le fameux tag team mixed match où elle a été
Avec
avec Baron Corbin.
oui. C'était quel pay-per-view ça?
Et ben c'était Money in the Bank. Non, c'était pas Money in the Bank. C'est quand Brock Lesnar a fait son cash-in, mais c'était pas le même soir. Du coup, ça devait être Extreme Rules. C'est Extreme Rules.
Déjà, ça fait si loin.
Oui, on l'avait pas vu pendant un petit moment, mais là elle revient. Alors elle est plus. Bon, elle revient pas chercher Becky Lynch. Là, elle affronte Natalia. C'est son premier match depuis son retour. Elle affronte Natalia. Toujours un style assez bourrin, assez stiff. Lacey Evans, hein, elle me donne des coups de coude, des coups de pied, tout ça. Natalia prend le dessus une partie du match, mais au final, elle se fait cueillir. Donc, à la régulière, hein, pas de triche ni rien. Lacey Evans, 1, 2, 3, gagne sa prestation. Donc, toujours bookée comme une adversaire crédible pour la suite. Ça te fait plaisir de revoir Lacey Evans, Kyrias?
Oui, j'aime bien sa droite qu'elle met en finisher. Je la trouve assez crédible. Et non, après, j'ai eu du mal avec son personnage lorsqu'elle faisait que ses entrées et elle faisait rien d'autre en fait.
Tu n'es
Mais
pas le seul.
là, maintenant qu'elle revient et qu'en plus qu'elle catch, non, c'est tout ce qu'on lui demande et elle l'a bien fait. Il fallait qu'elle montre qu'elle pouvait gagner sur quelqu'un. Donc on lui a mis Natalia dans les pattes. Bon, Natalia, j'ai toujours un peu de mal. Faudrait presque qu'elle parle un peu moins pour que je l'apprécie. Mais non, mais sinon, dans son catch, elle est très bonne aussi comme vétérante. Et la rencontre, même si elle était brève, a été bien fichue.
C'est
Et
vrai que
du
t'as
coup,
ouais.
le résultat n'était pas super. Super surprenant,
Ah
mais
non.
il fallait remettre en selle, fallait la remettre en selle, mais non, ça s'est bien mis du coup.
C'est vrai que
Et toi?
tu t'en fais la remarque, c'est vrai qu'on voit dans les rosters féminins, maintenant qu'il y a un vrai main event avec Becky Lynch, etc., on voit plus trop en fait des jobbeuses. Et c'est vrai qu'à part, comme tu dis, à part Natalia, je vois pas qui on pourrait donner à une jeune qui arrive ou qui revient et qu'il faut booker fort. On voit plus du tout, il y a plus Alicia Fox, il y a une carte, il y a un peu un trou dans la carte en fait chez les filles. Hein. Soit on est. Après, il y a la division tag team du coup maintenant qui occupe un peu de monde. Et sinon, bah voilà, les Sivens, qui d'autres on aurait pu lui mettre dans les pattes, c'est un peu mystérieux.
Carmela, peut-être. Je sais pas dans quel, je sais même
Ouais.
plus dans quel, si elle est à Raw, à SmackDown.
Bon, ça, je pense
Mais
qu'on s'en fout un
enfin.
peu, mais c'est vrai que ça fait. Carmella, on l'a plus vu catcher, je pense, depuis qu'il y a l'histoire du titre 24-7.
Oui, c'est vrai, oui.
Je pense qu'elle est plus du tout dans le game. Mais bon. En tout cas, ouais, Lacey Evans, c'est de retour. Moi, je l'aime bien, je trouve qu'elle a. Elle a récupéré le personnage de Diva qui avait plus trop et ça fait un personnage féminin qui voilà hein, c'est un peu le pendant de la grosse brute chez les hommes. Chez les femmes, il y a toujours une belle femme élégante qui envoie du pâté et puis ben, le catch féminin c'est pas si mal hein, je dis ça en sachant que Giscard lui déteste tout ce qui a rapport avec les femmes. Mais voilà, il n'y a pas que Giscard dans le monde de la WWE. Pensons à lui. Ensuite. Ah ben oui, toujours les filles, toujours les filles. Donc on a Becky Lynch
Oui.
quand même. Ah ben, on parle des femmes. Voilà, on a Becky Lynch, on parle des femmes. On a The Man. Becky Lynch qui vient nous taper une promo au micro en parlant de Sasha Banks, évidemment. Voilà, parce que Sasha Banks, elle est vénère. Elle dit qu'en gros, on a tout donné à Becky Lynch. Et Becky Lynch a dit l'inverse, a dit mais Sacha putain t'étais la superstar de NXT, moi à NXT je galérais comme pas possible, meuf quand tu faisais des matchs, on te donnait la compagnie te payait un bouquet de fleurs, je trouvais ça vraiment bien trouvé, voilà t'as eu les top stars et puis bah après t'as tout arrêté et enfin voilà tu t'es laissé dégringoler et moi pendant ce temps bah, je me suis battu, je suis devenu the man, donc voilà il faut se battre pour venir chercher les choses. Là-dessus, Sasha Banks arrive, elle débarque évidemment, hein, puisqu'elle a été provoquée. Et Sasha Banks, en gros, a dit, écoute, meuf, toi, si t'as eu tout ce que t'as eu, c'est juste parce qu'on a eu pitié de toi, parce que tu t'es fait taper la gueule par Nia Jax. Donc, pou pou pou, on y va, les grosses phrases dans la gueule. Elle se défie un peu pour un match, mais finalement, voilà, on propose ce qui flottait dans l'air. On deal Sasha Banks contre Becky Lynch. Pour ce fameux titre féminin à Clash of Champions, donc ça y est, c'est officiel. Ben voilà, il a fallu une grosse promo au micro. Sasha Banks, depuis qu'elle est là, elle a arrêté un peu ses. Ben, elle est passée dans un autre level, hein. Elle est plus dans les petites phrases de bitchage qu'elle avait avant. Là, c'est.
Oui,
Elle
oui, oui.
rentre dedans, ça te plaît là, la nouvelle Sasha Banks, la Sasha Banks bleue?
Oui, bleu, elle aurait pu être verte ou je sais pas quelle couleur, ça m'aurait été quand même, mais non, j'aime beaucoup son nouveau gimmick. Hein. Un peu plus stiff et plus. Pas stiff, mais plus rentre-dedans, quoi.
Ouais.
Et non, j'ai trouvé l'échange entre les deux vraiment bien foutu. Ça m'a rappelé l'histoire de la poupée qu'avait eue Charlotte. Et donc, Sasha Banks, pour le triple threat à WrestleMania il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus.
3 ans maintenant, je
Où
pense.
Becky n'avait pas eu sa poupée Mattel, alors que les deux autres, elle avait eu juste à côté d'elle, quoi. Et
Ah
ça,
oui.
on en parle dans un 24 heures Becky Lynch, je crois, sur le network, où elle explique qu'elle était vraiment un petit peu dégoûtée du truc, quoi. Et je pense
Ouais,
que c'était
c'était le...
une petite revanche pour elle aussi. Elle n'en a pas parlé là, mais l'histoire des coups des fleurs apportées en coulisses, c'est ça, quoi. Ça revient au même.
Ah oui, clairement,
Ouais.
on l'oublie aujourd'hui, mais Becky Lynch a mis du temps avant de s'installer, hein. C'est sûr que c'était Sasha Banks et Charlotte, les deux piliers de la division féminine à NXT, et Bayley même était beaucoup mieux placée sur la carte que Becky Lynch à NXT. Et après, ben, on a suivi la révolution féminine, les matchs Hell in a Cell, tout ça, c'était Sasha Banks et Charlotte. Ouais, il y a
Oui.
juste rappel des choses. Hein. Bah voilà, l'affiche est bookée. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que Sasha Banks, pour le moment là, te semble dans la dynamique de enfin battre Becky Lynch, qui est quand même championne depuis WrestleMania, ou t'y crois pas trop encore là?
Si ça c'est la première que je verrais, oui,
Ouais.
en sérieuse contender qui puisse vraiment lui prendre le titre. S'il y a bien quelqu'un dans le roster de Raw féminin. C'est bien elle qui peut le faire. Donc moi, je suis content de ce booking qui arrive. Bon, on s'en doutait, mais qu'il soit officialisé dès maintenant, c'est bien.
C'est vrai. Alors c'est vrai qu'on a souvent on dit que l'automne à la WWE c'est toujours un peu tristou, mais là pour le moment on a des affiches assez dynamiques et on a des retours qui nous font plaisir. Mais cette année, l'automne à la WWE, c'est surtout le tournoi King of the Ring qui est
Ah.
toujours en place. On est au quart de finale. Eh ben écoute, on va casser un petit peu notre dynamique chronologique. On va faire tout le King of the Ring. Un seul morceau. Donc le
D'accord,
premier,
d'accord.
eh ouais, le premier match c'était Baron Corbin contre Cédric Alexander. Tu n'es pas un fan du Baron, toi?
Oh là non.
Ah là là, décidément. Eh ben Baron Corbin, pourtant il fanfaronne toujours à s'imaginer King Corbin. Et puis Alexander, bon, il a été un peu passé à tabac en coulisses, donc il est moyen à 100%. Il donne tout quand même, hein. On a une belle opposition de style évidemment entre les gabarits, hein. Corbin, il y a un moment, il coince Alexander. La tête à l'envers là dans les cordes, donc il en profite pour le tabasser. Après, bon, Alexander se redresse, on a tout ce qu'il faut en type de projection de high flyer, mais toujours la fin des temps, le end of days qui le cueille. Et donc Corbin avance jusqu'au demi-finale, comme ça proprement. Bah déjà premier ressenti sur ce match, ça t'a plu cet affrontement?
Alors, pour une fois, oui. Et pour un match de Corbin, ça m'a plu. J'ai prouvé qu'il a été moins lent qu'à l'accoutumée. Et avec Alexander, qui est un bon high flyer, on peut le dire, ça a été un échange plutôt agréable à suivre. Donc j'ai été surpris par ça, et le résultat, malheureusement, me déplaît, mais bon, c'est. Il joue là-dessus aussi, c'est Corbin qui a un chemin tout tracé vers la finale.
Mais alors, est-ce qu'il a un chemin tout tracé? Parce que de l'autre côté, on a un autre match, celui qui va déterminer donc l'adversaire de Baron Corbin. C'est une grosse affiche, Samoa Joe contre Ricochet. Donc
Ah
là
là là.
aussi, une opposition de style. Tu es un fan de Ricochet?
Fan, je l'aime bien, oui, et j'aime encore plus Samoa Joe, en fait.
Ah d'accord. Non, parce que sinon j'allais dire décidément, tu es vraiment l'exact opposé de Giscal. Tu apprécies le catch féminin, tu n'apprécies pas Baron Corbin et tu aimes bien Ricochet. Mais justement, tu vas être précieux pour les prochaines semaines. Donc, alors, moi j'ai trouvé la dynamique de ce match-là un peu moins bonne que celle de Alexander Corbin, étonnamment. Un peu plus de temps au sol, ça a été un peu plus lent. Ricochet un peu moins virevolté, mais bon, il l'a fait quand même. Et puis au segment final, donc on est debout sur le turnbuckle. Samoa Joe essaye de placer une coquina clutch. Ricochet contre en faisant tomber tout le monde au sol. Donc les deux corps gisent au milieu du ring, et chacun a le bras collé sur le copain. Tout le monde est inanimé, l'arbitre compte, 1, 2, 3, la cloche sonne, et on sait pas en fait, l'arbitre va demander, on sait pas trop, il va parler dans le casque à quelqu'un en disant « Ouais, moi j'ai compté les deux, enfin j'ai compté les épaules de tout le monde au sol, et puis il s'en va, il dit on va discuter. » Donc pas d'annonce, on nous dit même pas si c'est une égalité, un double décompte, enfin j'ai trouvé qu'il manquait quand même une petite annonce micro.
Oui, je suis d'accord avec toi, oui.
Et en coulisses, quelques temps plus tard, on voit ce même arbitre qui croise Baron Corbin. Baron Corbin dit « Ouais, allez, ils sont tous les deux éliminés, je suis en finale. » Et l'arbitre dit « Bah non, manque de peau, c'est l'inverse qui a été décidé, ils sont tous les deux qualifiés. » Donc la demi-finale, la demi-finale côté Raw, hein, puisque la finale sera Raw versus SmackDown, la demi-finale sera un triple threat, Samoa Joe versus Ricochet versus Baron Corbin. Et là, le Baron... Il est vénère, qu'est-ce que t'en penses, toi, de toute cette histoire?
Ça nous donne une belle affiche. Après, le statu quo qui s'est installé après le match m'a déplu aussi. J'aurais voulu une annonce claire et pour le public et les spectateurs, parce que ça donnait une fin vraiment pas finie, quoi, du coup.
Ouais.
Et puis le double countdown, enfin le double tombé, on savait pas du coup de quoi on pensait. Et moi j'aurais aimé une explication pour me dire c'était la décision qui est prise ou pas, et en accord avec ou pas les autorités. Et non. Heureusement, enfin ils ont pas trop traîné après dans l'émission pour faire justement l'interview de Corbin en backstage et l'annonce qui suivait du triple threat. Donc ça, heureusement, ils n'ont pas traîné quoi pour ça. Mais du coup, ça revient un petit peu. J'ai pensé à je sais plus qui du catch-up qui disait que Corbin était meilleur dans les matchs à plusieurs. Bah du coup là, il est servi quoi. Il a son match en triple set traître et on va pouvoir le voir briller comme il faut.
Oui. Sur le principe, c'est sûr que c'est un type de match où il est meilleur puisqu'il est moins exposé. L'affiche est belle. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça n'aurait pas été très compliqué parce que là, ça faisait vraiment amateurisme. Le côté « Oh putain, il y a eu un double pin. Qu'est-ce qu'on fait ? Allez, l'arbitre qui s'en va. » Ils auraient pu au moins nous dire au micro genre « C'est une égalité, it's a draw. » Et « Therefore, il n'y a pas de vainqueur. » Et puis, on verra ce que c'est. Mais... À la limite, la décision pour le tournoi, on la prend après, mais on annonce quand même que ça peut arriver. Bon, ça arrive rarement dans le catch, une égalité, mais ça peut arriver.
Ça n'a pas empêché Samoa Joe de tabasser quand même son adversaire après la fin. Bon, au cas où, mais ça, en fait, non, ça n'a pas eu d'incidence.
C'est vrai, j'avais oublié de mentionner ça. Oui, les deux donc ont poursuivi l'arbitre en demandant mais qui c'est qui a gagné ? Puis après, ils se sont mis sur la gueule, comme d'habitude. La question qui tue, alors ce triple threat, d'après toi, il favorise qui ? Moi, je suis pas un fan du Baron et j'ai peur qu'il aille vers la finale. Mais là, je trouve que c'est pas une stipulation qui le favorise spécialement. Peut-être, je sais pas, plus Ricochet là, peut-être qui est favorisé là-dedans, je sais pas.
Je ne sais pas non plus, c'est la grosse question. Quel sera le représentant d'Euro entre les trois ? Là, j'aime bien être dans cette position-là, à savoir que je ne sais pas, j'ai pas de plus de pistes que ça. Et ouais. J'aime bien être dans les spectatives, des fois, dans les histoires que raconte la WWE. Que ce ouais. soit pas déjà écrit.
Non, c'est vrai.
Je suis content
De ce scénario.
Oui.
Ben, en même temps, oui, parce que ça dira quand même que le finaliste de Raw, il aura fait du gros match, quoi. Il aura mérité sa finale. En plus, on a deux heels, Samoa Joe et Corbin, donc même en connaissant l'adversaire de SmackDown, ça va pas forcément nous orienter. C'est pas mal. Alors, on revient un petit peu en arrière dans la chronologie. On quitte le tournoi du King of the Ring. On va passer très vite. Les Viking Riders ont encore battu deux mecs de Baltimore, deux locaux. Je sais pas si tu as quelque chose à en dire.
Rien du tout. C'est hélas encore une fois, quoi. Mais pas de... Pas d'adversité.
Pas d'adversité. On a un interview de Bailey, parce que ce soir, on nous annonce, alors j'ai noté comment ça s'appelait, c'est un Women Championship Showcase, c'est-à-dire on nous annonce un match avec toutes les championnes. C'est-à-dire Bailey et Becky Lynch vont faire un tag team contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Voilà, Bailey en interview, en gros, a dit qu'elle est contente globalement que Sacha soit revenue, qu'elles sont toujours potes. Et on lui demande, est-ce que t'as pas peur ce soir, toi qui es la championne de SmackDown, d'être un peu éclipsée par Becky Lynch, par The Man? Et elle dit non, non, ça va, on verra ce soir qui va éclipser qui. Bon, un petit interview comme ça, gentillet de Bailey, hein, rien de très inattendu, rien de très surprenant. Je sais pas si ça t'a choqué ces propos.
Ouf, non.
Non, il t'en faut plus.
Oui. J'ai trouvé ça assez lambda en fait.
Alors, il y a une annonce, il y a eu deux annonces d'affilée là, deux grosses annonces. La première, c'est que Stone Cold Steve Austin, décidément, là, il revient en force, il fait des podcasts, il fait des Skype, et il a trouvé que c'était le bordel, cette signature de contrat en ouverture. Donc, il dit, bah, la semaine prochaine, c'est moi qui viendrai faire la signature de contrat entre Braun Strowman et Seth Rollins. C'est Braun Strowman, il est en coulisses et il se méfie, il dit, ouais, je sais, Seth, que Stone Cold, il te kiffe, là, est-ce que t'es pas en train d'essayer de m'entourlouper, là? Et Seth Rollins, il dit, ah, come on, man, attends, toi, t'as peur de Stone Cold, en gros, vas-y, concentre-toi sur autre chose. Voilà, bah, une belle annonce, alors, surtout qu'on a un Raw la semaine prochaine au Madison Square Garden, donc ça nous promet
Ah,
du show, non, ça?
oui, je savais pas que c'était. Je connaissais pas le lieu du prochain Raw, mais du coup, si ça peut augurer une bonne émission avec un public en feu, ouais. Et
Et ouais.
le choix de Steve Austin, c'est marrant parce que j'aurais plus vu dans une feud avec, enfin, dans une histoire avec plutôt SmackDown avec Kevin Owens, son actuel fils spirituel. Qu'on nous vend avec un nouveau avec le stunner comme finisher, mais pourquoi pas sur Strowman et Rollins, hein. Puis c'est là aussi la tête d'affiche de Raw. Et non, ça si ça peut faire vendre un peu plus la rencontre, ouais.
On verra ce qui s'en dessinera, s'il y aura du stunner dans tous les sens. Bon, c'est pas plus mal, je trouve qu'il soit pas trop avec. Déjà que c'est tellement transparent qu'ils essayent de faire de Owens un nouveau Stone Cold, il faut. Des fois, il faut. C'est pas plus mal de pas
Oui,
trop.
remarque.
Et donc, il y a une deuxième annonce qui suit. Et nous avons un petit voyage dans une jolie maison, une maison du fun. Nous allons à la Firefly Fun House. Nous retrouvons Bray Wyatt. Avec ses copains, Bray Wyatt qui mentionne rapidement Finn Balor en disant qu'il est désolé pour ce qui est arrivé à Finn Balor, pour ce que The Fiend a fait à Finn Balor qu'on n'a pas revu depuis, hein. Et surtout, il nous dit qu'il a une grosse annonce à nous faire, une révélation. Et tout d'un coup arrive petit personnage qu'on avait déjà vu là, le patron, le boss. Il n'est pas nommé, mais voilà, on reconnaît très bien Vince McMahon avec des cornes de diable. Et Vince McMahon, il est très en colère et il dit, oh là, qu'est-ce que c'est que cette histoire que tu veux défier Braun ou Seth Rollins pour un match à Hell in a Cell? Il faut pas les blesser, ils me font de l'argent et tout. Donc Bray Wyatt, il nourrit la marionnette, il lui donne de l'argent à manger, il lui donne des dollars, de la money. Le petit personnage, il mange ses dollars, il rote parce que ça rote beaucoup dans Firefly Funhouse, ça fait rire les enfants, ça. Et en gros, voilà, ben Bray Wyatt, il nous dit, voilà, j'ai toute mon équipe, j'ai tous mes copains avec moi. See you in hell. Il dit que Braun et Seth ont quelque chose qui lui manque, qui est à lui. Donc, alors, moi, je n'ai pas trop suivi. Il paraît que c'était une réponse à des rumeurs sur Internet, mais en tout cas, voilà, là, on nous annonce qu'en gros, Bray Wyatt, il voudrait être le prochain challenger au titre mondial, hein, pour le pay-per-view suivant, donc pour le pay-per-view Hell in a Cell. Est-ce que tu avais eu vendre quelque chose à ce sujet? C'est moi qui ai
Alors,
raté une info ou...
j'ai raté la même info a priori parce que je ne savais pas non plus qu'il y avait des rumeurs là-dessus. Donc non, je.
Et du coup, qu'en penses-tu de ce Firefly Funhouse et de cette piste?
Alors, je me posais la question, c'est vraiment la voix de Vince McMahon qu'on entend derrière sa marionnette?
Je sais pas, ou alors c'est un imitateur, mais ça y ressemble pas mal quand même.
Ouais, je trouve aussi, donc ouais, pourquoi pas. Je suis un petit peu. Par rapport à Bray Wyatt et son nouveau gimmick, enfin son nouveau, il est plus trop nouveau maintenant, mais Mais moi, ça me fait beaucoup penser, en fait, à Téléchat. Je sais pas, pour ceux qui ont connu, c'était une émission pour enfants avec des marionnettes, mais moi, ça me faisait peur à l'époque.
Ah, c'était un peu glauque, ouais.
Ah ouais, carrément. Et là, pareil, ça me fait penser à ça, c'est avec l'espèce de petit rat qui se fait d'ailleurs évacuer.
Oui,
On voit
qui...
très peu.
le lapin, là, qui
Oui,
meurt
bah
tout le temps.
c'est ça, ouais. C'est Kenny. Et non, c'est du coup, voilà, je trouve Brevoyade vraiment bien dans son rôle. Cet épisode de Firefly Fun House n'a pas démérité non plus, avec un contenu encore assez original et flippant, en fait, hein, je trouve.
Ça
Hein.
va, ça va loin là dans le second degré quand même sur Vince McMahon, je trouve. Hein.
Oui, on se demande où ils veulent aller, mais pourquoi pas?
Et alors donc la grosse annonce, est-ce que si The Fiend affronte Seth Rollins ou Braun Strowman dans le Hell in a Cell, est-ce que c'est pas un peu tôt? Est-ce que bon, on va encore spéculer pas mal, hein, mais est-ce qu'il peut faire autre chose que gagner ce genre de rencontre? C'est délicat là, je trouve, de l'envoyer si vite.
Oui, c'est vrai qu'en termes de match de catch, hein, il n'a pas encore beaucoup montré ses nouveaux attraits. Il n'y a eu qu'un match en pay-per-view, je crois, depuis
Ah
son
bah il n'y a eu
arrivée.
que Finn Balor, hein.
Oui. Et ouais, donc passer de Finn Balor et directement à la top carte avec la ceinture, bah écoute, pourquoi pas? Il est dans un gimmick assez puissant comment dire? Ah mince, j'ai un trou, excusez-moi.
Bah, il est dominateur, mais
Oui,
de
c'est
là
ça. Enfin, de là à passer directement à title shot, bon, après c'est Hell in the Cell, ça aurait son sens.
ouais, c'était le moment ou jamais, là, c'est une bonne idée, c'est sûr.
Et après, est-ce qu'il est capable de remporter ce titre? Pour lui, ce serait vraiment une exposition, je pense, assez intéressante. Hein. Ça changerait du coup de Rollins qui peut être de temps en temps un petit peu fade, peut-être, en face. Hein. Et après, bah, après, le problème, c'est Strowman, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire contre Strowman? Hein.
Ben, c'est pas, Strowman n'a pas encore gagné, mais ça serait ça serait moi je suis assez surpris de cette annonce, hein, c'est parce que s'il perd le Hell in a Cell en The Fiend, ça va être un peu dommageable pour sa gimmick. Mais s'il gagne, alors c'est vrai que c'est quand même un personnage vachement effrayant, donc pour les enfants, pour le grand public, pour le PG, avoir un champion universel qui serait là et puis qui risquerait de durer un petit peu quand même. C'est un choix, c'est un gros choix en tout cas, c'est un choix impressionnant, je trouve. On verra bien, mais tout n'est pas encore certifié. Mais en général, à partir du moment où un défi est lancé, je pense qu'on l'aura cette affiche-là, ça me paraît inévitable.
Maintenant qu'il en a parlé, oui, c'est ça va revenir.
Bah écoute. Encore un peu de patience, hein. Hell in a Cell, je sais pas trop quand c'est, mais ça doit être fin octobre ou mi-octobre, hein. C'est le prochain après Clash of Champions. On va retrouver ça. D'ailleurs, ça va être les 10 ans du pay-per-view Hell in a Cell, hein. Ça va faire 10 ans qu'on a ce pay-per-view avec ces matchs en cage. Et voilà, est-ce que tu voulais dire rajouter quelque chose sur ce segment?
Pas la situation sur ce segment. Donc peut-être que j'ai eu un petit peu trop de générique avant l'émission de Firefly. Ça m'a un petit peu troublé l'esprit. J'en peux plus. J'ai un peu peur de trop en entendre.
De saturer.
Oui.
Alors, bah écoute, on va passer à la suite. Bon, on a très rapidement en backstage un interview de Rey Mysterio qui est de retour et qui nous dit que finalement, bah, il enlève pas le masque, il continue, il va faire ça pour son fils. Comme c'était un peu prévisible, je sais pas si tu as été touché ou si tu t'y attendais un peu.
Séquence émotion, oui.
Ouais.
Après, je ne sais pas ce que fume rirait, mais il a la voix totalement cassée, quoi.
Ah oui, c'est vrai.
Sa voix
Pourtant, c'est
était
pas les promos
vraiment.
qu'il fait.
Oui. Non, mais c'était voilà, c'était la petite séquence émotion avec son fils qui n'était pas là.
Non.
Mais c'est peu, il n'y a pas plus à dire, je pense.
Non, effectivement. Et bon, c'était un peu couru, hein, qu'il allait pas prendre sa retraite comme ça en coulisses, mais
C'est tant mieux.
tant mieux, effectivement. On continue un peu de catch hein, quand même sur le ring là. Plus dans le King of the Ring, on a deux perdants, hein, deux éliminés du King of the Ring. Le Miz qui est là, Awesome Miz contre Cesaro, donc un affrontement qui est un peu notre main event masculin, hein, puisqu'on va voir, c'est le dernier match des hommes de la soirée. Un gros match, Cesaro qui cueille d'un uppercut d'une manchette dès le début The Miz, et puis après voilà, l'affrontement se passe beaucoup, bah, c'est beaucoup Cesaro qui catch hein, encore une fois.
Oui.
C'est assez spectaculaire comme toujours, beaucoup de manchettes, beaucoup de coups portés à la volée. Le Miz place un peu ses prises aussi favorites. Surprenant, enfin un petit peu sorti de nulle part, il arrive à placer son Skull Crushing Finally. Donc ben, le Miz l'emporte à la loyale, à la régulière. Il engrange une petite victoire. On sait qu'il est, il est parti pour affronter Shinsuke Nakamura dans le titre intercontinental. Cesaro, par contre, ben, continue une losing streak qui commence à devenir longue comme le bras, hein, puisqu'il perd. Contre Cédric Alexander, contre Samoa Joe, contre Aleister Black, contre tout le monde. Je sais pas ce que t'en penses, toi, si c'est pas un peu dommage ce rôle de Jobber 5 étoiles, ou si au moins il est là à chaque row. Ouais.
Dès le début du match, il fallait mettre en valeur The Miz. Donc le résultat était pas très. Était déjà écrit d'avance, quoi. Donc, c'est un peu ce que j'ai trouvé dommage, c'est que voilà, c'est Cesaro qui fait encore des. Qui est super propre dans le ring, se couche encore et en plus clean, quoi. Donc, il y a rien à dire là-dessus. Mais voilà, c'est. J'ai été surpris aussi que Cesaro n'ait pas plus de pop que ça suite à son apparition dans le NXT UK Takeover, où là, il avait vraiment une énorme pop. D'ailleurs, j'ai trouvé le public un peu mou ce soir de Baltimore. Voilà, Cesaro, bah oui, c'est le paillasson, quoi. C'est un peu dommage pour le talent du gars, mais au moins il a l'écran, il a des matchs, hein, il déroule son arsenal et il perd. Mais bon, j'ai confiance en ce qu'un jour il soit pushé.
On y croira jusqu'au bout. Ouais, moi je suis de ton avis, hein. C'est-à-dire que d'un côté, oui, il est là à tous les héros. Je pense que c'est évident pour tout le monde, hein, même pour l'autorité de la WWE, qu'à tous les héros, il fait le gros match, il sort les grosses prestations. Après, voilà, il n'est pas du tout booké, il n'est pas du tout protégé. Il perd clean, voilà, contre le Miz, quoi. Le Miz a out-wrestling Cesaro, il le surpasse. Alors bon, ça pouvait aller pour Aleister Black ou Samoa Joe, là. Cédric Alexander, déjà, j'avais eu un peu de mal. C'est un peu dommage, mais peut-être, j'espère que ça fait partie d'un plan, que Cesaro, là, dans quelques semaines, il va se relever, il va prendre le micro, un peu comme il l'a fait, là, pour aller défier Aleister Black. Il va dire, allez, moi, j'ai envie de catcher, j'ai envie de rebondir, quoi, et puis qu'il nous ressorte, je sais pas, ça ferait un bon challenger à AJ Styles, par exemple, ou ce genre de choses.
Ah oui, ça sera un affrontement, ça, pour la ceinture US, ce sera un bel affrontement.
Ça serait pas dégueu, mais on n'en est pas encore là pour le moment.
Non, non, non.
Comme tu l'as dit, il se couche gentiment. Et donc, on en a fini pour les garçons ce soir, puisque le main event de ce Raw, quand même, il est féminin, il est 100% féminin. Et puis, on a ce qu'il faut, puisqu'on a quatre jeunes femmes sur le ring. Donc, Bayley et Becky Lynch d'un côté, en tag team, contre les championnes tag team, donc Alexa Bliss et Nikki Cross. On a un bon match, hein, globalement. Moi, je trouve que c'est les championnes tag team qui se sortent vachement bien, qui jouent vraiment le côté entertainment à fond. Donc, elles tabassent pendant très longtemps Bayley. Elles privent Becky Lynch de la rentrée du hot tag. Nikki Cross, elle s'amuse, elle tire Bayley d'un côté, elle dit « Allez, au revoir Becky ». Alexa Bliss, elle s'amuse à un moment donné, là, elle donne coup de pied ou un coup de poing, je sais plus, dans la main de Becky Lynch qui voudrait taguer. Donc elle joue vraiment le rôle de méchante. Sasha Banks en plein match débarque, juste pour regarder au début. Et puis un moment où Becky Lynch a finalement réussi à rentrer, c'est en train d'exploser tout le monde en gros, hein, de tabasser à la fois Bliss et Cross en même temps. Et ben elle intervient, elle nous fait son AJ Styles, elle perturbe le match, elle attaque Becky Lynch, elle va chercher une chaise, elle s'en prend à Becky. Et puis tout d'un coup, qui c'est qui revient? C'est Bayley, hein, qui était un peu à l'extérieur, mais qui revient intercepter Sasha Banks. Sasha Banks lui donne la chaise, Et Bailey, tout sourire, ne se laisse pas prier. Elle donne des coups de chaise, 1, 2, 3 ou 4, je ne sais plus exactement, sur Becky Lynch. Donc Bailey et Sasha Banks, les premières championnes tag team féminines de l'histoire, sont à peu près liées par la même colère sur Becky Lynch. La pauvre rookie, elle en prend sur sa tronche. Le public, a priori, a kiffé ça. Hein.
Ah oui.
Encore une fois, un heel turn qui fait plaisir, pourtant sur la meuf la plus over de l'histoire du catch féminin, peut-être sur Becky Lynch, mais bah voilà. Grosse surprise, je dirais. Alors tout le monde parle de heel turn, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'elle va s'excuser? Est-ce que. Je ne sais pas, mais voilà, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce main event surprenant?
Moi j'étais surpris que ce soit vraiment Bayley, la hugueuse de la WWE, qui a pas vraiment un gimmick très violent, on va dire.
Ah non.
Et ouais, non, j'ai pas compris du coup pourquoi ce changement. Est-ce que c'est son amitié avec Sasha Banks? Mais bon, l'amitié à la WWE, on sait ce que c'est. Ça aurait pu. Moi, je m'attendais pas du tout à voir ça. Je pensais que Bayley allait s'en prendre à Sacha, parce que c'est une face héroïque et qui prend pas les gens en traître. Et non, en fait, non. Donc du coup, non, je suis très surpris par ce dénouement, tout comme le public. Et j'attends d'avoir des explications, effectivement, de ce geste qui me reste un petit peu en travers de la gorge, quand même.
Toi, tu le vis mal plutôt.
Bah oui, mais je suis
T'aimes pas la
plutôt.
trahison.
Ouais, non, je suis plutôt derrière The Man. Et la trahison, ouais, venant de Bailey, surtout, moi, ça me dérange.
Eh ben écoute, c'est très bien parce que je te rejoins pleinement. Non, alors beaucoup de gens, je vois sur l'internet catchers ils étaient fans, tout le monde. De toute façon, c'est souvent ça, hein, quand un catcheur ou une catcheuse face manque un peu de personnalité ou autre, tout le monde on crie et tout le monde attend le heel turn. Là, moi, je trouve que ça sort vraiment de nulle part parce que, enfin, honnêtement, Becky Lynch, qu'est-ce qu'elle a fait à Bailey? J'ai pas le souvenir, elle lui a rien fait, non?
A priori non, puis
Ouais.
non.
Voilà, donc c'est assez gratuit. En plus, Bailey, elle est partie sur une dynamique pour affronter Charlotte. Donc, à moins que Charlotte fasse un face turn, mais j'aime pas trop Charlotte en face. C'est vrai que Bailey était un petit peu tendue ces derniers moments, là, quand elle avait fait tomber Charlotte, quand elle avait poussé là-haut. De son siège au Moment of Bliss, bon, c'était pas très sympathique, mais ouais, là c'est un peu. J'attends d'être convaincu parce que je trouve qu'il y a des personnages. Je sais pas, en fait, pour moi, Bayley, c'est un peu, ouais, c'est un peu la face ultime, c'est un petit peu. C'est la John Cena féminine, hein, on le disait
Oui,
beaucoup à
oui,
une époque, et j'étais pas du tout quelqu'un qui poussait pour un heel turn de John Cena. Voilà, il y a des personnages, bah, comme Rey Mysterio, un peu, je trouve le gimmick est tellement. Tellement marqué, gentil, qu'on l'imagine pas en heel. Mais en même temps, j'étais persuadé aussi, par exemple, que Sami Zayn ne jamais heel ou ferait pas un bon heel, et je le trouve excellent maintenant. Donc j'attends d'être surpris, mais c'est vrai qu'un heel, ça a besoin de parler, quoi. Et là, Bailey, je sais pas trop ce qu'elle peut nous raconter. Moi, je suis plus dubitatif, ouais, je suis comme toi. Hein. Je dis bon, pourquoi pas, ça faisait plus, on avait envie de caser un oh my god moment là pour que toute la twittosphère en parle, mais ça tombe un peu. Après, bon, c'est pas plus mal. Il vaut mieux ça de temps en temps qu'on soit surpris que des heel turns hyper attendus comme Dean Ambrose l'an dernier à peu près à la même
Oui.
époque. Mais Dean Ambrose, on pense à lui, hein, où que tu sois, petit ange. Mais ouais, bon, bah écoute, c'est ainsi que ça finit en tout cas. Donc il y avait vraiment une volonté de mettre ce segment et ce heel turn en avant quand même, hein, de la WWE.
Oui. Et après, bah, pour revenir au match, il fallait effectivement les quatre ceintures, ça pouvait pas se terminer clean, quoi. Donc
Ouais.
l'intervention de Banks était justifiée.
T'es convaincu, toi, par les champions de tag team?
Bizarrement, je pense qu'elles s'en sortent mieux que d'autres. Par rapport à Iconic, bon, c'était un petit peu lèche, quoi. Là, au moins, on a des lutteuses, hein, des vraies
Ouais.
lutteuses, hein, qui sont pas déméritantes. Donc, non, c'était plutôt bien.
Ouais,
Après, je sais pas combien de temps elles vont garder les ceintures, mais ça me paraît une bonne, pour l'instant, une bonne équipe, et bien, bien ensemble.
Pour le moment, en tout cas, à date du Raw de ce lundi, on a, puisque on nous annonce donc un Clash of Champions où toutes les ceintures seront défendues, là, pour le moment, on n'a pas encore d'affiche pour elles. On ne sait pas trop si elles vont avoir les Kabuki Warriors ou les... comment elles s'appelaient, là, les Absolution. On ne sait pas encore. Elles auront un match, sûrement, mais là, il n'est pas défini. Peut-être à SmackDown, je ne sais pas, mais peut-être ça va se délier.
À voir.
Eh bien, écoute, nous avons fini avec ce Raw. Voilà, c'est ton premier Raw analysé, Kyrias, émotion.
Je n'en puis plus.
Eh ben écoute, il faut garder un peu de force parce que tu connais notre principe. Maintenant, je vais te laisser la parole pour nous dire, dans l'ordre que tu veux, ton top, ton flop et ta note sur ce Raw de Baltimore du 2 septembre 2019. Dis-moi.
Alors, moi, j'ai envie de mettre mon top à la ceinture 24-7 qu'on n'a pas vu de l'émission. Et c'est plutôt agréable. De ne pas voir Benny Hill et ses potes courir derrière une ceinture. Non, ça fait du bien, je trouve, de faire une petite pause dans ce row de cette ceinture. En flop, c'est difficile parce que c'était vraiment un bel épisode, je trouve, dans l'ensemble. Je mettrais peut-être aussi la défaite de Cesaro, clean.
Ouais.
Parce qu'il faut trouver quelque chose et parce que ils auraient pu peut-être mettre un enjeu pour cette rencontre qui était lambda sinon. Et dans mon top, mon top, ça va être difficile.
Tu veux donner deux tops finalement?
Dans mon top, ça va être le début du show avec la promo d'Izzy aussi.
Oui.
J'ai trouvé vraiment bien dans le ton et bien marquante.
Et la note?
Et donc ma note finale, ça va être un 4. Je vais pas changer. Je vais mettre une bonne note. J'étais content de ce rôle qui a été assez rapidement exécuté. J'ai pas vu les heures passer.
C'est vrai.
Et non, je suis plutôt content. J'ai eu du bon catch, des bonnes promos, des avancées dans les storylines, donc tout va bien, quoi.
Bah écoute, ouais, je suis globalement d'accord avec toi. Tout va bien, un show très plaisant, des avancées, pas trop non plus. Hein, ça avance doucement mais sûrement vers le pay-per-view, donc c'est pas mal. Écoute, moi en flop, j'avais mis le même que toi. C'était mon petit regret, c'est que Cesaro fasse les matchs de gala et puis perde tout le temps. Tout le temps ensuite, surtout que c'est mon point de vue, évidemment, c'est peut-être pas celui de Vince McMahon. Je trouve que il job pour des mecs qui mériteraient moins que lui. Enfin, je trouve que là, je préférerais avoir Cesaro en challenger de Nakamura, par exemple, au lieu du Miz. Mais bon, le Miz, c'est. Il doit vendre. On doit estimer qu'il vend plus de royalties. Alors, du coup, si tu as pris ce flop-là, je vais dire que mon deuxième flop, c'était en gros le moment de flottement après Samoa Joe ricochet là avec l'arbitre qui
n'a
pas grand chose.
Oui.
C'était moyen. Ils auraient pu trouver un truc un peu plus rapide pour nous dire pour éviter ça, qui fait toujours un peu. Moi j'ai beaucoup de mal en fait quand je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, quand la WWE book sa propre incompétence.
Oui.
C'est ça qu'ils sont là. Bon oh merde, dis donc, deux double pins. Bon, je sais pas, c'est déjà arrivé quand même, donc ça peut. Ça aurait pu au moins une phrase de l'annonceur pour le public, quoi. Et j'avais mis le même top que toi aussi, j'avais dit le club, enfin The OC qui m'avait beaucoup plu. Est-ce que je peux mettre un autre top ailleurs? Je vois pas trop, hein, parce que c'est vrai que c'était quand même peut-être le meilleur passage de l'émission. Écoute, là je vais rester sur ce top-là, on va rester là-dessus. Et moi j'avais noté 3,5, donc bonne note aussi, un petit peu, j'ai pas osé sortir le 4. Peut-être ça m'a manqué, il y a eu plusieurs bons matchs, mais ça... Bon. Moi, j'ai le 4 difficile. J'aurais mis un gros 4 s'il y avait eu un énorme match ou un truc comme ça. Mais non, c'était très plaisant. Et comme tu l'as dit, pas de 24-7, effectivement. Et pas de ouais, il n'y a rien qui nous a déprimé. Donc, on est plutôt hypé là, pour Clash of Champions, non? Qu'est-ce que t'en
dis? Oui, c'est dans 2 semaines, hein, c'est ça?
Et ouais, enfin, il doit rester.
C'est un épisode.
Un ou deux, alors, éventuellement, je sais pas trop, mais. Parce que s'il y a la signature de contrat, je sais pas si on va déjà vers le Go Home Show. À voir, à voir. Bah écoutez, on en a fini avec ce RAW. J'espère que ça vous aura plu les uns et les autres de nous écouter. N'hésitez pas en commentaire à faire un petit coucou, à souhaiter la bienvenue à Kyrias. Vous savez comment c'est une rentrée des classes, hein, c'est toujours un petit peu stressant. Là, il est dans un nouveau lycée avec nous, il sait pas trop encore, il nous connaît pas trop.
J'avais mis mon plus beau slip en plus et mon plus beau masque pour faire cette émission.
En plus, il est beau comme tout. C'est vrai qu'on fait plus de vidéos conférences, mais bon, je vous assure qu'il est. Il est beau comme tout, il a pas le gros nez et les cheveux gras de Giscal, par exemple. Voilà, Giscal qui a déjà commencé, il est méchant, hein, un peu se moquer, un peu critiquer le nouveau. Hein. Giscal, c'est pas bien ça. Donc il faut les accueillir avec gentillesse. Pour ça, vous nous écrivez, vous nous donnez votre avis. Est-ce que vous êtes complètement en délire sur ce heel turn de Bailey? Wouh, trop bien! Est-ce que vous êtes Team Baron Corbin ou Team Ricochet? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que vous voulez voir The Fiend dans la cage déjà? Est-ce que vous êtes triste pour Cesaro? Ou est-ce que vous trouvez qu'il mérite largement son sort parce qu'il est suisse et que c'est une drôle d'idée? Voilà, donc sur YouTube, sur PodCloud, sur iTunes, partout où vous pouvez nous entendre, n'hésitez pas à nous faire vos retours. On est sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Catch-up CDC, donc on attend de vos nouvelles, on espère que vous passez une bonne rentrée. Que les vacances se sont bien passées, qu'elles continuent avec nous dans le bel univers du catch. Écoute, Kyrias, merci beaucoup d'avoir été là pour cette review. Je suis fier d'avoir été là pour ta première de Monday Night Raw. J'espère que ça s'est bien passé, que tu en feras plein d'autres.
C'est a priori parti pour une longue série, donc je suis content d'être là aussi et j'espère que ça va aller de mieux en mieux.
Et espérons que ça va aller de mieux en mieux et qu'on finisse par sortir des gros 5 à Monday Night Raw.
Et oui.
Et voilà, et écoute, merci à toutes et à tous de votre écoute, et puis n'hésitez pas à rester connectés bien sûr pour le SmackDown qui devrait arriver. Je crois qu'on avait une team Chris IRM qui se dessinait, c'est ça, ou peut-être Giscard?
Il me semble, oui.
Ouais, je sais plus exactement. Voilà, on est toujours là, n'hésitez pas à rester connectés, n'hésitez pas à écouter les reviews, je crois qu'on a... On a dans les cartons un retour aussi de All Out qui devrait pas tarder si vous avez suivi la fédération concurrente qui monte. Et ça, allez, je vais l'annoncer comme ça l'obligera à le faire. Je crois que Giscal nous prévoit d'être seul sur scène pour nous dire tout ce qu'il pense de All Out. Et je vous assure, ça va être notre podcast le plus brûlant. Donc n'hésitez pas à le partager, à l'écouter. Ça va être, voilà, c'est catch-up, se lance dans la polémique. Et ben voilà, on finit là-dessus. Ben, merci beaucoup, Kyrias. Et puis bonne semaine à tous. Et puis à bientôt pour encore plus de catch.
Bonne semaine à tous, salut! Ah, j'ai mal aux oreilles.